Alors, on va commencer par votre livre, Madame Bettencourt. Chaque matin, dès l'aube, vous écrivez à votre fille qui était enlevée le 23 février 2002. Vous lisez un texte sur une radio colombienne avec l'espoir qu'elle vous entendra. Et votre livre, eh bien, c'est essentiellement un livre d'amour.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est ça. C'est pour démontrer à ma fille que je suis avec elle tout le temps. Mmh. Au moment de me réveiller, je suis à côté d'elle. Et pour lui donner de la force, même que parfois je suis sans force, mm-hmm. mais pour qu'elle sache que nous faisons tout le possible pour sa libération et pour tous ceux qui sont avec elle.
Mm-hmm. On sent quel est votre quotidien et que, ça c'est sans doute tragique, vous imaginez finalement ce qu'elle est, ce qu'elle fait, c'est le plus dur.
Ses souffrances. J'imagine qu'elle est dans des conditions très dures. Mmh. Et je seulement veux qu'elle puisse continuer avec son courage, sa force, et son espoir et la foi. Mais je crois que c'est trop dur pour elle. Mmh. C'est trop dur. Et surtout, être loin de ses enfants au moment qu'ils grandissent, que pour une mère, c'est heureuse d'être à côté de ses enfants, les voir grandir et tout.
Ouais. Et surtout qu'on ne comprend pas finalement pourquoi on l'a enlevé, on ne le sait pas, vous-même, vous ne le savez pas. Et puis vous êtes coincé entre un président, votre président, qui finalement, il n'est pas très sympathique, il ne vous reçoit pas, il ne veut pas vous recevoir, il n'essaye pas de faire un accord humanitaire avec la guérilla.
C'est le moment où il y avait tout pour arriver à la libération de ma fille et de tous ceux qui sont avec elle. Et le président a tombé les choses comme ça, d'une façon très brusque, très désagréable, très dure. Parce qu'il dit que c'était une bombe mise pour la guérilla, mais c'était d'abord dans une université militaire, d'abord. Mmh. En plus, c'est pas pour une chose militaire de la guerre qui se passe, une action de guerre qui se passe, c'est pas les otages qui doivent payer pour ça. Pourquoi se venger dans tous les otages qui sont depuis, il y a des otages qui sont depuis 8 ans, 9 ans, et ma fille et tous les députés qui sont là, c'est pas juste. Pourquoi la furie? Il était furieux, il était vraiment transporté avec un regard terrible.
On sent bien dans ces lettres que vous écrivez et que vous lisez aussi qu'il y a des moments d'espoir, des moments de désespoir, des moments de joie, et que vous voulez malgré tout continuer à les transmettre à votre fille.
Et ça, je continue, même après tout ce qui s'est passé les 19 dernières. Je continue parce que bien sûr, je serai là jusqu'au moment que ma fille soit libérée, je ferai tout le possible. Mmh. Le problème, c'est que parfois, je ne sais pas quoi faire. Mmh. Quoi encore faire?
Il y a peut-être une chose qui vous soutient, c'est la prière.
Oui.
Tous les samedis à midi, vous priez.
Tous les jours.
Oui. Ça, c'est ce qui vous soutient.
Si.
Et votre mari aussi, qui est mort, avait dit, je cite de mémoire, c'est son destin, mais ça va s'arranger. Enfin,
si, il me disait que la feuille de l'arbre ne bouille pas si ce n'est pas pour la volonté de Dieu. Il me disait tout le temps que...
Qu'est-ce qui vous soutient?
Oui, la foi en Dieu et l'amour à Ingrid. Mmh. L'amour pour Ingrid me soutient et l'appui de l'Europe, de la Belgique, de la France, de la Suisse.
Il y a ce moment quand même particulier, le samedi à midi, heure colombienne, tous les samedis à midi, vous récitez le rosaire et Ingrid aussi.
Parce que c'est elle qui m'a proposé. C'est elle qui a, dans une petite corde, l'a fait venir. Il me disait, maman, c'est notre téléphone samedi à midi. C'est pour ça que je suis toujours avec elle et je pense qu'elle fait la même chose que moi. C'est comme une communication.
Une communion.
Une communion.
Une communion spirituelle.
Oui. Alors, André Comte-Sponville, vous êtes là, vous entendez cette interview, et j'imagine qu'il y a un écho à votre livre.
Oui, il y a un écho d'abord à l'humanité, c'est-à-dire que tout le monde est partagé entre l'horreur de voir ce qui est arrivé à votre fille, la compassion, l'admiration pour elle, et puis pour sa famille, pour ce combat admirable à tous égards qui est menée. Et bah, bien sûr, quand elle dit il y a la prière et il y a l'amour, bah, l'amour, c'est ce dans quoi on peut tous se reconnaître, et la prière, c'est ce dans quoi certains ne se reconnaissent pas. Mais j'ai rarement senti aussi fortement que ce soir, ce que je dis par ailleurs dans ce livre, c'est que, au fond, ce qui unit les croyants et les incroyants, c'est-à-dire une certaine fidélité à l'amour, est plus important que ce qui les oppose. Le fait que vous croyez en Dieu et que je n'y crois pas, reconnaissons que c'est quand même beaucoup moins important que l'amour que vous avez pour votre fille, celui que j'ai pour mes enfants, et ce combat commun que nous pouvons mener contre l'injustice et contre l'horreur. Et c'est pourquoi mon livre, qui est le livre d'un athée, mais...
Fidèle, hein ?
Oui, un athée fidèle. Alors, athée parce que je ne crois pas en Dieu, fidèle parce que je continue de me reconnaître dans ses valeurs morales, culturelles, spirituelles, qui se sont dites dans les grandes religions en général, et en particulier dans nos pays, dans la tradition chrétienne ou judéo-chrétienne. Et je crois qu'il est important justement de bien marquer qu'être athée, ça n'est pas avoir la haine de la religion. Être athée, c'est ne pas avoir de foi. Mais encore une fois, entre les croyants et les incroyants, dès lors que chacun essaye d'être fidèle à une certaine conception de l'humanité, à une certaine exigence d'amour, de courage, de justice, ce qui unit les croyants et les incroyants est plus important de très loin que ce qui les oppose.
Et puis, vous parlez aussi de mysticisme, et lorsque vous levez les yeux vers la voûte étoilée infinie, eh bien là, vous avez un moment souvent de mystique.
Oui, alors c'est un livre sur l'athéisme et sur la spiritualité. Autrement dit, j'essaye de montrer, et ça passe souvent pour paradoxal dans nos pays, que, bien sûr, la religion est un type de spiritualité, mais un type seulement, il y a aussi une spiritualité pour les athées. C'est quoi la spiritualité? C'est la vie de l'esprit. Mais que je sache, les athées n'ont pas moins d'esprit que les autres. Pourquoi auraient-ils moins de spiritualité? Pourquoi s'intéresseraient-ils moins à la vie spirituelle? Alors la différence, c'est qu'un croyant vivra sa spiritualité dans un rapport à une transcendance, comme on dit, c'est-à-dire à un Dieu extérieur à la nature, supérieur à la nature, alors qu'un athée vivra sa spiritualité plutôt dans l'immanence, comme diraient les philosophes, c'est-à-dire dans l'immersion, dans la nature, dans le réel, dans le devenir, dans ce que j'appelle l'éternel présent.
Vous employez d'ailleurs le terme l'immanencité.
Oui, c'est un néologisme que je forge pour évoquer que oui, que nous sommes à la fois au cœur de l'immensité, sinon de l'infini, et comme nous sommes au cœur, nous sommes dedans, ça n'est pas une transcendance, c'est bien une immanence. C'est ce que Freud, au fond, appelait le sentiment océanique, ce sentiment d'immersion, d'être un avec le grand tout, qui est véritablement une expérience spirituelle.
Mais un athée lucide est quand même toujours un peu désespéré.
Oui, parce que bien sûr on peut espérer, nous espérons tous, la libération d'Ingrid Betancourt, mais pour l'athée, s'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de vie après la mort, toutes nos espérances viennent buter sur le fond très obscur de la mort. Ce qui confirme, me semble-t-il, que l'essentiel d'une vie d'homme, au fond, ça n'est pas la foi qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça n'est même pas l'espérance ultime qu'on a ou qu'on n'a pas. Ce qui fait la valeur d'une vie d'homme ou de femme, c'est la quantité d'amour et de courage dont on est capable. Et de ce point de vue, le chemin de Madame Betancourt est évidemment admirable et me paraît au fond plus important encore que tout le reste.
C'est pour ça que vos deux livres se rejoignent.
Oui, quelque part. Même, oui. Mais pour moi, je pense comment je ferais si je ne croyais pas en Dieu.
Oui.
Parce que c'est à Dieu que je me sens, je prie et que je me sens
soutenu.
C'est pour
dire. Pourquoi moi je ne fais surtout pas de prosélytisme athée. Je veux perdre la voix à personne. Il se trouve que moi, je ne l'ai pas. J'essaie de montrer cette dimension de désespoir que vous évoquez, on peut la vivre. Heureusement, j'essaie de montrer ce que peut être un gai désespoir. Mais surtout, n'essayons pas de briser la foi de ceux qui l'ont. Ça serait d'évidence un mauvais service à leur
compte. C'est vrai que dans votre livre, vous parlez des arguments pour dire que Dieu existe et que là, aucun vraiment...
Attends, j'évoque les
arguments. Il n'y a même plus un philosophe, même croyant, qui...
J'évoque les arguments principaux allant dans le sens de l'existence de Dieu, ce qu'on appelle les fameuses preuves traditionnelles de l'existence de Dieu. J'explique pourquoi je n'y crois pas. Et puis surtout, je donne mes arguments à moi qui font que je suis athée. Les 6 arguments principaux qui font que je crois que Dieu n'existe pas. Ce n'est qu'une croyance. Je n'ai pas de savoir. Personne ne sait si Dieu existe ou non. Je crois.
Et c'est le danger, c'est lorsque la foi se transforme en savoir.
Oui, c'est ce qu'on appelle le dogmatisme. Qui peut tomber.
Vous dites deux belles expressions. Je n'aime ni les spadassins du néant, les nihilistes, ni les janissaires de l'absolu.
Oui, je me méfie des fanatiques, ceux qui ont trop de foi ou qui prennent leur foi absurdement pour un savoir et donc qui veulent l'imposer aux autres, ce qu'on appelle le fanatisme. Et je me méfie aussi des nihilistes. Vous savez que nihil, en latin, ça veut dire rien. Le nihiliste, c'est celui qui ne croit en rien, qui ne respecte rien, qui n'a ni valeur, ni règles, ni idéaux. Et ce livre est écrit, au fond, contre ces deux adversaires-là. Je me bats contre le fanatisme, c'est vrai. Je me bats aussi contre le nihilisme.
Un message qui nous arrive par SMS pour vous, Madame Bettencourt. J'ai découvert votre fille par le biais de son livre. Peu avant son enlèvement, au-delà de son combat politique, sachez que l'exemple de son courage nous aide à affronter une société souvent injuste et inhumaine. Gardez foi et espoir, et c'est signé d'une auditrice qui se prénomme Muriel. Quel est votre espoir le plus intime? Bien sûr qu'Ingrid soit libérée le plus vite possible. Que lui direz-vous le jour où vous vous retrouverez, on l'espère tous évidemment, face à elle, libre enfin?
Ah oui, que lui direz? Bon, je serai l'être le plus heureuse du monde, surtout pour mes petits-enfants et pour elle-même, parce que c'est pas juste qu'on a coupé toute sa carrière politique et tout ce effort qu'elle faisait pour la Colombie d'une façon si brutale et qu'il soit enlevé de la vie du pays de cette façon. Mmh. En tout cas, je voudrais que les enfants profitent de sa mère et qu'elle profite de ses enfants.
Parce qu'ils ont grandi évidemment en 4 ans et demi et se sont devenus de jeunes adultes.
Oui.
Ils ont beaucoup souffert de l'absence de leur maman.
Énormément souffert. Heureusement qu'ils sont un peu...
Vous êtes là, hein, vous êtes là, on le sent dans le bouquin. Hein.
Oui.
Vous êtes là. Ils vous ont.
Oui, bien sûr. Et son père aussi, c'est très bien.
Qu'on a reçu d'ailleurs un jour à
Fabrice.
Votre
appel. Oui. Très bien. Comme on perd les enfants, c'est très bien.
Madame Bettencourt, finalement, Ingrid, elle tient beaucoup de vous et de son père pour son combat politique, pour les déshérités, pour les plus pauvres, pour les plus démunis.
Oui, parce qu'elle a été élevée avec des principes et je crois qu'il a une vocation de service. Pas de se servir de la politique, de servir. Et la Colombie a énormément de besoins parce qu'il y a des classes marginales qui viennent depuis longtemps, qui ne se préoccupent, personne ne se préoccupe pour les pauvres. En Colombie, à ce moment-là, les 60% des Colombiens ont faim. C'est vraiment... Il n'y a pas de programmes sociaux dans le gouvernement actuel. Ça n'intéresse pas.
Vous avez trouvé les fonds pour votre albergue et vos...
Oui, à la fin,
vous
parce
avez des enfants.
On m'a donné un prix aux Nations Unies et bon, j'ai payé toutes les dettes.
Ça va mieux alors?
Ça va un petit peu mieux, oui.
Yolanda Poulessio Bettencourt, Ingrid, ma fille, mon amour, c'est un très beau livre et c'est sorti chez Robert Laffont. Merci beaucoup.
André Comte-Sponville, L'esprit de l'athéisme chez Albin Michel. Merci de vos visites. La pensée du jour, elle est signée Jean-Paul Sartre. L'absence, c'est Dieu. Dieu, c'est la solitude des hommes.